France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Michel Leduc et Emmanuel Huisseman-Perrin. Le palais de la découverte en question. Voici, Michel Leduc, la troisième émission que nous consacrons au palais de la découverte et aux menaces qui ont pesé sur lui. Nous nous sommes rencontrés à cette occasion en 2010, alors que le palais fusionnait avec Universcience. Puis, en mars 2020, nous avions invité Étienne Guyon, qui était directeur du palais de 1987 à 1990. Et aujourd'hui, je vous laisse la parole pour réfléchir sur ce qu'il va advenir de ce palais.
Alors, merci Emmanuel. Cette émission est en effet la troisième consacrée par l'UR au Palais de la Découverte. Alors, après fermeture pour travaux il y a 4 ans, le Palais de la Découverte devait voir sa réouverture complète en 2026, une fois rénové, avec des surfaces réaménagées. Toutefois, la pré-ouverture, cette année, donc 2025, a été sans cesse repoussé. Et notamment depuis qu'il a été mis fin aux fonctions du président d'Universcience, qui a la tutelle du palais, et annoncé le lancement d'une mission interrogeant le, je cite, le modèle économique et l'emprise bâtimentaire d'Universcience. Alors aujourd'hui, c'est l'existence même de ce musée des sciences, lieu unique créé par Jean Perrin en 1937, qui semble remise en question. Nous avons invité Jean-Michel Courty. Jean-Michel Courty, vous êtes professeur de physique à Sorbonne Université et l'un des 9 commissaires scientifiques du projet de rénovation du palais de la découverte auquel vous avez travaillé pendant 4 ans. Clairement, vous avez à cœur, autant que l'UR, l'Union rationaliste, de voir ce projet se réaliser tel que vous l'avez conçu pour le monde d'aujourd'hui avec vos collègues d'Universcience. Pouvez-vous résumer la genèse du projet de rénovation du palais?
Bonjour. Donc, la genèse du nouveau Grand Palais, ça a commencé au moment où il a été décidé de refaire les bâtiments du Grand Palais. Là, la direction du Palais de la Découverte a décidé une rénovation complète, une refonte totale de l'offre proposée aux visiteurs. En 2018, le projet est lancé et il y a une dotation d'État de 44 millions d'euros pour ce projet. Universcience Travail fait un projet scientifique et culturel qui est validé par les 2 tutelles d'Universcience que sont le ministère de la Culture et le ministère de l'Enseignement supérieur. Et à ce moment-là, on se met au boulot. Universcience s'associe au CNRS comme partenaire scientifique de référence et le CNRS propose 9 comités scientifiques, dont je suis, met en place un comité scientifique présidé par Antoine Petit pour être le garant des choix et des contenus scientifiques. Et bien sûr, tous les chercheurs et universitaires qui sont dans les laboratoires du CNRS sont mobilisés pour faire avancer le projet.
Alors, quels sont les objectifs du projet actuel du Palais de la Découverte, hein ? Gardez-vous en tête les objectifs de Jean Perrin de 1937, c'est-à-dire de montrer la science en train de se faire et d'offrir un accès au public le plus large possible.
L'idée de ce nouveau projet, c'est vraiment de pouvoir conserver tout l'esprit de ce que souhaitait Jean Perrin, de montrer la recherche en train de se faire, de s'adresser à tous et de s'adresser aux gens d'aujourd'hui qui vivent dans le monde d'aujourd'hui. Quand Jean Perrin a conçu le Palais de la Découverte, c'était il y a 100 ans. Quand moi, enfant, j'ai été émerveillé par le Palais de la Découverte, et ça a émerveillé un petit garçon qui vivait dans le monde il y a 50 ans. Donc l'enjeu, c'est de réussir à émerveiller les enfants et les adultes qui vivent dans le monde d'aujourd'hui avec tout ce que cela implique. Et de commencer par s'émerveiller par la beauté de la science, de piquer la curiosité, de stimuler l'intérêt et ensuite de donner les clés de compréhension pour comprendre le monde d'aujourd'hui et les enjeux actuels. Montrer la recherche d'aujourd'hui en train de se faire, susciter les vocations scientifiques. Enfin voilà, c'est ça vraiment qu'on a cherché à faire dans ce nouveau projet.
Alors, pouvez-vous nous décrire ce que va trouver le visiteur du futur, pas trop lointain on l'espère, quand il entrera dans le nouveau Palais de la Découverte, dans sa version rénovée ?
Alors, à la fois des classiques, mais surtout plein de choses nouvelles. Déjà, par rapport à la recherche, il va y avoir une salle qui s'appelle les têtes chercheuses. Là, les chercheurs vont venir sur place, avec leurs expériences, avec leur matériel, pour pouvoir interagir avec le visiteur, leur présenter. Et puis, il y a plein de chercheurs qui ne peuvent pas amener leur laboratoire avec eux. Et là, il y a une salle spécifique qui s'appelle la salle grand format, qui est une salle immersive, avec des grands écrans au plafond, au sol, sur les murs, pour aller dans tous les endroits où on ne va pas d'habitude. Les deux premiers qui ont été travaillés, c'est la station de recherche en Arctique, et puis le synchrotron Soleil. Donc là, on va pouvoir être vraiment en prise avec la recherche d'aujourd'hui. Ensuite, il y a les salles d'exposé. Comme toujours au Palais de la Découverte, c'est la médiation humaine qui est au centre de l'interaction. Donc une salle exposée pour chacune des sciences. Et nouveauté encore, les labos. Les labos, c'est 5 salles où là, c'est pas les médiateurs qui vont montrer au public, mais c'est le public lui-même qui va expérimenter, pratiquer, donc dans des séances qui sont un petit peu plus longues que les médiations habituelles, et il va y avoir de la place pour l'erreur. On essaye, on échange, on se met des défis. Et puis, il y a l'arrivée des sciences humaines et sociales au Palais de la Découverte. Là encore, c'est totalement nouveau, c'est le CNRS qui l'a proposé. L'idée, c'est de pouvoir avoir un peu un regard avec un peu de recul sur la science. La recherche, qui décide des sujets de recherche? Les chercheurs, les politiques, est-ce que la recherche, ça se pilote? Comment on devient chercheur? Comment on apprend à être chercheur? Les parcours. Comment s'établit, se valide l'effet scientifique? Et puis, comment on recherche, on va aussi faire avec le doute. Ou à la fois, il y a ce doute qui est présent, qui va motiver la recherche, et en même temps, l'objectif, c'est quand même d'avoir des résultats et de pouvoir dire des choses. Et puis, encore dans les nouveautés, on va avoir un observatoire astronomique numérique qui va permettre, dans la journée, d'observer le soleil, et la nuit, de faire des observations des étoiles. En direct. Là, ce sera pas des images enregistrées ou quoi que ce soit. Et puis, bien sûr, les classiques, le planétarium. Que serait le Palais de la Découverte sans un planétarium? Mais là encore, ça va être un planétarium unique au monde, qui combine deux technologies. La technologie de la vidéoprojection, qui permet d'avoir les galaxies, énormément d'étoiles, etc., mais qui a pas forcément une résolution absolue. Et puis, un planétarium optomécanique, où là, il y a des lentilles avec qui permettent d'avoir des étoiles très précises, très fines, très ponctuelles. Et là, le défi qui a été relevé pour le nouveau palais, c'est d'avoir ces deux technologies combinées et synchronisées. Ce sera la première fois au monde. Et puis, bien sûr, l'électrostatique, les expériences super impressionnantes. Donc là, ça va être dans une rotonde, en face, en vis-à-vis du planétarium, encore plus exceptionnel, avec encore plus d'étincelles, d'éclairs, etc. Et, point important, c'est qu'aujourd'hui, on a tous des appareils numériques. Ça veut donc dire qu'il a été nécessaire, cette salle, de la blinder totalement. On va avoir tout autour de la salle ce qu'on appelle une cage de Faraday qui va permettre que toutes les étincelles qui sont fabriquées ne perturbent pas les appareils des visiteurs et tous les écrans qu'il y aura dans le palais.
Alors j'espère qu'on pourra toujours se faire dresser les cheveux sur la tête en frottant un bâton d'ébonite avec la peau de chat, hein, parce que tous les enfants ont été émerveillés par ça. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre vision de la spécialité, la spécificité, l'unicité du Palais de la Découverte? Parce que des musées des sciences, il y en a quand même pas mal dans Paris, il y en a dans toute la France, dans le monde bien sûr. Mais quelle est la spécificité selon vous du Palais de la Découverte et pourquoi il est important de le maintenir au sein du paysage parisien des musées?
Effectivement, de la science, il y en a partout, il y a des centres de sciences, il y a des ailes de sciences dans les musées municipaux, plein de musées. Bon. Mais il y a une chose qu'il n'y a qu'au Palais de la Découverte, c'est qu'au Palais de la Découverte, il y a toutes les sciences en même temps. En fait, on va en province, vous visitez le musée de l'eau. Bon, dans le musée de l'eau, vous allez avoir de la physique, de la chimie, des géosciences, un petit peu d'environnement. Pas d'informatique, pas de mathématiques. On peut prendre tous les exemples, dans tous les musées, etc. On a en général quelques-unes des sciences qui sont là. Là, au Palais de la Découverte, elles sont toutes présentes et en interaction, en discutant. Et les galeries du palais ont été remodelées totalement dans cet esprit. On n'a plus la galerie de la physique, la galerie des maths, la galerie de la chimie. Prenez par exemple une des galeries dans laquelle on va entrer avec un îlot de géosciences sur la Terre. Voilà, la Terre, les plaques tectoniques, les volcans, comment la Terre est façonnée, qu'est-ce que c'est que la Terre, où est l'humain sur la Terre. Et puis à côté, vous avez un îlot d'astronomie. Autour des exoplanètes. Qu'est-ce que c'est qu'une planète? Qu'est-ce qui distingue les autres planètes? Qu'est-ce qui fait que notre planète est spécifique par rapport aux autres? Et qu'est-ce qui fait que dans notre planète, on a eu l'apparition de la vie? Ah, et bien juste à côté, un îlot de biologie, sur la vie sur Terre, avec le buisson du vivant, l'évolution de la vie, etc. Et en fait, tout le palais est revu comme ça, c'est-à-dire que chacune des sciences apporte son regard, mais on n'est pas dans des silos. En fait, on est dans des interactions où on va avoir les différents regards qui vont se croiser et interagir.
Et comment les sciences humaines et sociales s'insèrent là-dedans ?
Ben les sciences humaines et sociales, elles sont là. Va y avoir un certain dans chacun des îlots, il y a un aspect d'histoire des sciences où on va aborder dans chacune des ailes des exemples de comment sont apparues ces idées, de se replacer dans le passé. Et puis il y a cette dimension de la fabrique des sciences qui est d'avoir un aspect plus épistémologique, sciences société, de réflexion de quelle place pour la science dans la société. Je disais par exemple il y a un des îlots sur qui décide. Voilà, est-ce que la recherche ça se pilote sur des intérêts? Où est la liberté du chercheur, de la curiosité, toutes ces dimensions-là pourront être présentes. Idem sur la question du doute. On dit toujours la science c'est le doute. Oui, la science c'est le doute, mais enfin on a aussi des résultats qui sont bien établis. Et c'est ça qui est compliqué dans la recherche. Moi je vais même en physique, où à la fois on doit s'appuyer sur tout ce qu'on sait et en même temps réussir à le remettre en cause, reposer en question. Ça c'est vraiment quelque chose de pas évident et qu'on va expliquer au public grâce aux sciences humaines.
Vous êtes rédacteur avec Édouard Kerlik des chroniques mensuelles de la revue pour la science qui s'appelle Idées de physique, vos articles. Et vous êtes lauréat du prix Jean Perrin, qui avait aussi été décerné en 2010 au personnel du Palais de la Découverte. Et vous avez reçu la médaille de la médiation scientifique du CNRS. Vous êtes donc très qualifié pour expliquer au public ce qu'apportera d'irremplaçable le Palais de la Découverte, rénové pour la transmission des connaissances scientifiques vraies, donc vous venez d'en parler un petit peu, aujourd'hui si nécessaire pour relever les défis de la planète. Vous pourriez peut-être élaborer là-dessus, parce qu'il y a un combat quand même à mener contre la désinformation, contre l'obscurantisme, et c'est tout à fait des combats que mène l'Union rationaliste.
Alors, moi je dirais, pour la base de tout ça, c'est d'avoir une science incarnée. Et incarnée à plusieurs titres. Incarné parce qu'il y a la dimension humaine de la science. Le Palais de la Découverte, c'est d'abord la médiation humaine, la rencontre du visiteur avec les médiateurs qui viennent présenter les expériences, qui animent les ateliers, et les chercheurs qui viendront pour pouvoir interagir avec le visiteur. Et puis, c'est aussi comment ces lois scientifiques, souvent abstraites, s'incarnent dans le monde qui nous entoure. L'idée, c'est que au palais, avec l'interaction avec les médiateurs, mais avec les expériences, avec les démonstrations, on n'est plus dans des concepts abstraits. On est vraiment dans une incarnation des lois de la physique où on va comprendre
pas
comment
que de la physique.
De la physique. Oh là 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 là. Ben oui, mais ça, c'est des professeurs.
Les lois de la science.
Les lois des différentes disciplines.
Au sens nature.
Oui, mais voilà, au sens de la nature. Et donc, comment ces concepts scientifiques nous permettent de donner du sens au monde qui nous entoure et puis de le penser et de pouvoir penser à notre futur et à tous les défis qui se présentent à nous.
Et pensez-vous que ça fera réfléchir le public ? Quel public vous visez particulièrement ? Il y a les enfants.
Alors, il y a bien sûr les enfants, public familial, comme d'habitude, mais il y a un gros effort qui a été fait pour avoir attiré des nouveaux publics, en particulier les jeunes adultes. C'est dans cet esprit, en particulier, qu'ont été constitués les labos. Avec l'idée d'avoir des endroits où les visiteurs puissent s'impliquer, participer, etc.
C'est, dans un certain sens, un anti-réseaux sociaux, c'est-à-dire que...
Ah oui. Et là, moi j'allais dire...
C'est une réponse.
C'est la réponse aux réseaux sociaux, oui. Et avec l'idée qu'en fait, avec la matière, on triche pas. Mm. La matière, quand vous faites un bricolage, quand vous voulez fabriquer quelque chose, ça marche ou ça marche pas. C'est pas une question d'avis. Je veux dire, c'est ça l'avantage de la matière. Vous fabriquez une table, et ben soit elle est bancale, soit elle est droite. Et donc les expériences, la manipulation, pour moi, c'est central et pour tout le monde. Je veux dire, pour les petits, bien sûr, on est habitué, mais aussi pour les grands.
Voilà, c'est ce qui a fait le succès du Palais de la Découverte hier, et c'est tout l'avenir qu'on lui souhaite d'être une réponse factuelle
à
la désinformation.
Et encore, donc il y a les faits, et puis vraiment le triptyque avec la dimension humaine. C'est-à-dire la rencontre entre un lieu, le palais, parce que la science a besoin de palais, comme disait Jean Perrin, les visiteurs et la science.
On peut espérer que ça fera beaucoup de vocations scientifiques, parce que tout de même, on manque de scientifiques à beaucoup de niveaux en France.
Et moi, j'avais une question à vous poser sur l'état actuel des travaux au palais. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que tout ce que vous décrivez et qui semble vraiment merveilleux est achevé?
Du point de vue du Grand Palais, l'essentiel des ailes destinées au Palais de la Découverte sont pratiquement terminées. Il reste encore un petit peu de travaux à faire. Mm-hmm. Pour ce qui est du chantier du Grand Palais, sur les 44 millions d'euros, il y en a déjà 20 qui ont été dépensés sur toute la première phase du projet. Et maintenant, l'idée, c'est qu'il faut fabriquer tous ces objets et les installer. C'est ça l'enjeu. C'est la fabrication des éléments d'exposition, puis leur installation dans les lieux du palais. Et c'est là que, pour l'instant, on attend des arbitrages.
Vous voulez dire que le cadre du Palais de la Découverte est terminé?
Oui.
C'est ça?
Le cadre...
Là, je ne pense pas au Grand Palais. Je pense plus spécifiquement au lieu Palais de la Découverte à l'intérieur du Grand Palais.
Alors, ce qui est... Enfin...
Les salles qui devaient ouvrir.
Ah, les salles qui devraient ouvrir. Elles sont prêtes. Alors, ce qui devait ouvrir en juin,
ouais,
en fait,
le 6,
il devait y avoir des événements et des expositions. Donc, les expositions qui devaient être installées sont prêtes. Il y a une exposition sur l'intelligence artificielle. Il y a prévu une exposition sur la physique quantique. Toutes ces expositions sont prêtes
là,
à être installées.
Ça pourrait ouvrir.
Et ensuite, l'idée, c'est que ces expositions devaient rester jusqu'à ce qu'on démarre tous les travaux définitifs d'installation pour le Palais de la Découverte, l'électricité, l'eau et l'installation des éléments d'exposition.
D'accord. Et ça, vous voyez...
Ça, pour l'instant, on ne sait pas.
On attend un arbitrage.
On attend des arbitrages et des informations.
Et vous n'en avez pas?
Bah non.
Ben, nous espérons que cette émission va permettre d'asseoir l'audience du Palais de la Découverte, son importance pour la médiation scientifique.
C'est crucial parce que, on a beaucoup travaillé, mais il y a tous les personnels d'Univers Sciences qui ont travaillé sur le projet.
Bien sûr.
Tous les scientifiques qui ont contribué et qui se sont mobilisés. Et on trouve que ce serait un gâchis énorme de devoir mettre ça à la poubelle. Ça, on ne comprendrait pas.
Alto gâchis et espérons que le palais ouvre au plus vite. Michel Leduc et Jean-Michel Courty, merci infiniment d'être venus.
Merci à vous.
Nous renvoyons donc à l'éditorial de Michel Leduc sur le site de l'Union Rationaliste à propos du Palais de la Découverte. Nous renvoyons aux différents numéros de Raison Présente et des Cahiers Rationalistes et nous vous demandons de venir nous aider dans notre combat pour la science et pour la médiation scientifique. Venez nous rejoindre à l'Union Rationaliste. Je remercie à la technique François Saint-Jour, à la réalisation Jean-Christophe Francis et je remercie Claire Poinsignon pour le site. Je vous dis au mois prochain.